vous allez suivre une conférence de l'Agora des Savoirs, une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence FM.
L'interrogation de l'être humain,
la création de l'univers,
des gens qui ont écrit, qui ont pensé avant nous, qui ont perçu la réalité autrement.
Du 3 novembre au 8 juin, les mercredis à 20h30, salle Rabelais, la ville de Montpellier propose une trentaine de conférences destinées au grand public.
Que voulez-vous, madame? Pour vous, nous avons le scepticisme, l'hédonisme, le rigorisme.
Divergence FM diffuse les conférences en direct sur le 93.9.
Avec quoi est-ce que nous pouvons nous connaître, sinon avec notre propre connaissance?
Ce mercredi 24 novembre à 20h30, vivre avec les anciens aujourd'hui, sages et savants de l'Antiquité. Quelle lacune de notre époque la fréquentation des textes de l'Antiquité peut-elle donc bien combler? Les exemples de Socrate, Épicure, Sénèque serviront de point d'appui au philosophe Roger Paul Droit, chercheur au CNRS, enseignant à Sciences Po et également chroniqueur au Monde pour répondre à cette question.
Merci l'Agora des Savoirs de m'avoir invité à vous parler ce soir. Je remercie Régis Penalva de cette invitation et Johan-Antoine Mallet de ces mots trop gentils. Je crains que ça ne soit une leçon assez simple que je souhaite donner et pas si ambitieusement une leçon de vie. On va tenter en tout cas de s'approcher de ce que peut signifier vivre aujourd'hui avec les anciens, avec des sages et des savants de l'Antiquité. Je veux dire d'abord que par rapport au moment où j'ai donné ce titre et aussi quelques lignes d'explication, j'ai quelque peu changé de sujet. En tout cas, l'axe principal, rassurez-vous, est bien le même, mais j'ai souhaité peut-être évoquer quelque chose d'un peu plus délimité et tout en parlant de la relation entre sage et savant et de notre relation à l'Antiquité, tenter de replacer cela dans le cadre de la relation entre grecs et barbares. Et donc je vais tenir des propos qui sont un peu transversaux entre deux moments de cette Agora des Savoirs, celui de la réflexion sur les sciences et celui de la réflexion sur les autres et sur les représentations des autres, dont je crois, parmi d'autres, mon ami François Hartog vous parlera dans quelques temps. Quelques remarques préliminaires sur ce que j'appellerais des affaires de mots. Si je considère les termes de ce titre, eh bien, vivre aujourd'hui avec des gens qui ont disparu depuis 20, 25 siècles, qu'est-ce que cela veut dire? Il y a évidemment un extraordinaire paradoxe à vouloir, au présent, retrouver ou même simplement partager quoi que ce soit avec des humains si loin et si lointains. Et pourtant, ils sont là par des biais que nous avons sous les yeux sans même le voir. Agora. Agora, c'est un terme grec. C'est la place du marché et c'est le lieu des débats. C'est le lieu des échanges commerciaux comme aussi des échanges symboliques. Et il y a là quelque chose qui déjà peut être interrogé. Vous savez que Socrate, arrivant sur le marché, le vrai, celui où il y a des étals, dit « tant de choses dont je n'ai pas besoin ». Opposition, si nous retraduisions dans nos termes, au commerce ou en tout cas à une certaine forme de consommation. Opposition de Socrate aussi à ce marché des idées et des savoirs qu'incarne, en tout cas selon Platon, qui peut-être caricature un peu les choses, et même certainement les caricatures qu'incarnent les sophistes. Et peut-être n'a-t-on pas assez réfléchi sur le fait que pour qu'il y ait de la philosophie, c'est-à-dire pour qu'il y ait une posture soit de critique, soit de retrait par rapport à un marché et à un marché des idées, il faut aussi que ce marché existe. Et que sinon, il n'y a pas ce qui s'appelle véritablement de la philosophie. Je vous propose dans ces réflexion préliminaire sur les mots, de faire encore un petit peu de thème grec. C'est-à-dire de nous demander, rassurez-vous, ça va être court, comment nous pourrions traduire en grec ancien certains des termes de l'intitulé de cette conférence. Vous savez, le thème grec n'a d'intérêt, moi j'en ai fait beaucoup dans des temps quasiment jurassiques, lorsque je préparais Normal Sup, on nous faisait traduire en grec, tenez-vous bien, non seulement du Montaigne, mais j'ai ce souvenir horrible d'avoir traduit, mal évidemment, mais dans un grec qui ressemblait plus à n'importe quoi qu'à celui de Platon, une lettre de Rousseau aux citoyens de la République de Genève. Vous imaginez le type de bizarrerie auquel on arrivait. En tout cas, agora des savoirs, ça se traduirait comment ? Agora, pas de problème, mais savoir. Est-ce qu'on dirait épistémé ? Ça, c'est du savoir, c'est une science. Est-ce que l'on dirait mathémata, des connaissances, qui souvent s'emploient au sens des savoirs ? Est-ce qu'on dirait techné, un art ou un savoir pratique ? Ou est-ce que l'on dirait l'agora des sophioun, c'est-à-dire des sophia, des sagesses ou des savoirs. Et là, vivre avec les anciens, ce serait facile à traduire. Probablement eudzein, vivre bien, parce que ce n'est pas simplement une vie biologique. Platon utilise régulièrement le terme de palaioi pour les anciens, parfois au superlatif, les plus anciens, palaiotatoi. Mais le problème, c'est celui de traduire sage et savant. On ne peut pas. On ne peut pas. C'est le même mot. C'est sophos, qui veut dire le sage, mais qui veut dire aussi le savant, celui qui détient cette chose intitulée ou nommée Sophia, qui est aussi bien et régulièrement et indissociablement la connaissance et la sagesse. Et c'est pourquoi notre mot philosophie, qui signifie l'amour de Sophia, est régulièrement traduit, mais indissociablement, par amour de la sagesse, et c'est une bonne traduction, et par désir de savoir, et c'est aussi une bonne traduction. Ce qui signifie que si on veut traduire sage et savant en grec ancien, on ne peut pas. On ne peut pas parce que, encore une fois, les deux se conjuguent, se conjoignent, se superposent, enfin je ne sais comment dire. Et il y a là quelque chose qui vaut qu'on s'y arrête. Ce n'est pas une affaire simplement de curiosité linguistique. Vous devinez déjà que c'est un paysage mental, une carte mentale, si je puis dire, autre que la nôtre, qui se profile. Parce que celui qui détient Sophia, sagesse et savoir, celui qui est donc sage-savant, et il n'y a pas moyen, encore une fois, de dire autrement que d'accoler les deux. Il est transformé par ce qu'il sait. C'est-à-dire que pour un grec de l'Antiquité, et la chose est à peu près semblable pour un latin, mais elle est plus nette encore pour un grec, il n'y a pas cette coupure que nous faisons entre d'un côté les savoirs et de l'autre les sagesses. Savoir quelque chose qui vaut, parce que l'altitude du Mont-Blanc c'est bien, mais ce n'est pas transformateur, savoir quelque chose d'essentiel, quelque chose de lié à la constitution même du monde ou de l'existence, ça n'est pas un savoir extérieur à soi, c'est un savoir qui vous modifie. Et même, il n'y a pas de vrai savoir qui ne change celui qui le détient. C'est pour nous, encore une fois, très étrange. Mais il faut poser cet horizon-là si nous voulons commencer à comprendre ce que signifie ce terme, encore une fois, pour une part pour nous, énigmatique, qui est sophos, le sage savant. Dans un dialogue bien connu de Platon, le Gorgias, Socrate dit à Calliclès, vous savez, Calliclès, c'est un, je n'ose dire un affreux, mais en tout cas, quelqu'un qui parle clair, qui est un personnage imaginaire. J'ai tendance à penser que c'est ce qu'aurait pu devenir Platon s'il n'avait pas rencontré Socrate. Mais c'est un ambitieux, intelligent, féroce, et qui soutient qu'il vaut mieux, évidemment, être un tyran qu'une victime, qu'il vaut mieux être finalement le voleur que le dévalisé, injuste que simplement juste et perdant. Et Socrate lui dit cette chose, pour nous à peu près inaudible, mais tout à fait étonnante: si tu parles ainsi, c'est que tu ignores la géométrie. Autrement dit, nous séparons le fait de déduire des théorèmes les uns des autres et le fait d'avoir un sens de la justice et de la proportion, aussi bien dans le cosmos que dans les relations humaines. Le point de vue de Socrate ou le point de vue de ce savoir-sagesse ne peut pas séparer les deux. Alors on peut en tirer tout de suite un certain nombre de conséquences, mais qui sont fort simples. C'est que l'image du savant fou, dans la science-fiction, vous connaissez tous ça, dans d'innombrables films ou bandes dessinées, je vais appuyer sur ce bouton et je serai le maître du monde, ça, c'est rigoureusement impensable dans un horizon grec. Le savant ne peut pas être fou. Le savant est celui qui, en tant que détenteur de connaissances fondatrices et fondamentales, est aussi nécessairement juste, transformé par ce savoir. Et l'idée que la science puisse être productrice de menaces, que le savoir puisse devenir inquiétant, docteur Folamour, si vous voulez, eh bien cela, c'est une production moderne. C'est lié évidemment à cet éclatement, cette dissociation des deux termes, sagesse et savoir, qui se sont disjoints au terme d'une histoire complexe qui n'appartient pas à ce que je veux dire ce soir, quelques éléments je pourrais revenir tout à l'heure éventuellement dans la discussion. Mais en tout cas, nous sommes ceux d'après ce clivage. Pour nous, encore une fois, la sagesse et la science, ce sont deux choses, je n'ose dire définitivement, mais en tout cas profondément disjointes, et que nous ne relions pas. Et donc il faut comprendre comment l'idée même que des connaissances vous transforment, tenez, dans un autre dialogue de Platon, Protagoras, Socrate dit en grec, pardonnez-moi, polymeison kindunos estin, ente ton mathématon one et ente ton sition. Ce qui en français signifie: il y a un bien plus grand péril à acheter des connaissances ou dans l'acquisition des connaissances que dans celle des nourritures. Et le texte est très concret et même parlant. Il dit: quand j'achète des fruits et des légumes à l'étal du marché, je les retourne, je regarde, et si c'est pourri ou un peu tavelé, je repose. Tandis que quand j'achète des savoirs, je ne peux pas voir avant, et je les emporte, dit Socrate, dans mon âme. Alors il y a toute une idée d'une sorte d'âme réceptacle, d'une idée d'emporter quelque chose à l'intérieur de soi, mais c'est l'idée que ce savoir peut vous abîmer sans que même vous le sachiez à l'avance. Alors, une fois ceci posé, ce que je veux simplement me demander ce soir avec vous, c'est: est-ce que ces sages savants, ces sophoi, ces gens de la Sophia, est-ce qu'ils sont seulement grecs, ou bien est-ce qu'ils peuvent aussi, aux yeux des Grecs eux-mêmes, être barbares? Et si oui, avec quelles conséquences? Alors, en avançant dans cette question, de façon un peu plus détaillée maintenant, j'espère qu'on trouvera quelques éléments de réponse à l'idée de ce qui nous fait défaut aujourd'hui et que nous pourrions peut-être demander aux anciens sans cependant sauter par miracle dans leur époque. Il faut d'abord souligner qu'il y a une exclusivité présumée des Grecs par rapport à la philosophie. Elle s'est formée tout au cours d'une histoire assez récente, finalement, avec ce que l'on pourrait appeler, s'il fallait faire image, les trois H, Hegel, Husserl, Heidegger. Et ce trio, dans des contextes différents, à des époques différentes, dans des textes eux-mêmes dissemblables, a pour caractéristique d'utiliser une même expression allemande, au mot près, nur bei den Griechen, seulement chez les Grecs, ou chez les Grecs et eux seuls, pour parler de la philosophie et de la science. Des savants ou des sages, il n'y en a que c'est chez les Grecs ou dans la descendance ou la postérité des Grecs. Et cette croyance, parce qu'à mes yeux ça n'est que cela, a fini par devenir, au terme d'une histoire que je ne retracerai pas ici, j'y ai consacré déjà quelques textes, un des dogmes de notre institution philosophique. Et ce que je souhaite faire ce soir, c'est simplement de rappeler une réalité plus ancienne et en un sens plus embarrassante, c'est que cette conception d'une naissance seulement grecque de la philosophie n'est pas une conception grecque. On ne la trouve explicitement défendue chez pratiquement aucun penseur grec de l'Antiquité. L'opposition que nous faisons entre des sagesses, qui seraient de vieilles conceptions héritées des traditions et transmises, et puis de la philosophie, comme un pur exercice de la rationalité réglée, portant sur des objets rigoureusement conceptuels. Cette opposition, elle est inconnue dans le sens où nous l'employons, par la plupart des Grecs. Ça ne veut pas dire qu'ils ne distinguent pas du tout les usages de termes sophia et philosophia. On attribue à Pythagore l'invention du terme philosophe pour dire « il y avait des sages, autrefois nous avons en quelque sorte perdu le mode d'emploi, et maintenant il y a des philosophes, des gens qui tendent vers, qui s'efforcent. » Mais quand on regarde une multitude de textes, et je n'en prendrai ce soir que quelques exemples, il n'y a pas d'usage véritablement discriminant de sophoi d'un côté et de philosophoi de l'autre, de la même manière que nous séparons, nous, sages et philosophes. Que nous dit notre enseignement, généralement ceci, il y a des sagesses, respectable, en Inde, en Chine, en Chaldée, chez les druides, mais il n'y a pas d'usage de la philosophie comme usage théorique, comme disait Husserl, c'est-à-dire purement théorique. Et le fait est pourtant que lorsque les Grecs parlent des mages de Perse, des gymnosophistes de l'Inde, ils inventent ce terme des gens, des sophistes nus, les ascètes nus, les gymnosophistes, ils les appellent indistinctement philosophoi ou sophoi, et le plus souvent philosophoi. Il y a donc là quelque chose d'un peu troublant, d'un peu embarrassant, d'un peu inhabituel, et en plus, pour pousser le bouchon un tout petit peu plus loin, je voudrais m'intéresser à des textes qui parlent de la supériorité philosophique des barbares, des textes grecs qui parlent de la supériorité philosophique des barbares sur les Grecs. Monstruosité absolue en apparence. Il faut insister sur l'étrangeté de cette situation parce que tout en apparence contrevient à la possibilité même de textes comme cela. Tout en apparence, je veux dire, dans notre représentation habituelle. Nous avons tendance à penser, peut-être pas sans raison d'ailleurs, que les Grecs se pensaient comme toujours nécessairement supérieurs aux barbares. Nous avons tendance à penser que barbarie et philosophie sont antagonistes, et donc que des philosophes barbares, c'est une contradiction dans les termes. S'ils existaient, ils ne seraient pas supérieurs à des Grecs. S'ils étaient considérés comme supérieurs à des Grecs, c'est sûrement pas des Grecs qui le diraient. Eh bien, si. C'est ainsi que cela fonctionne. Dans des exemples que je vais prendre, quelques-uns seulement, et si vous en vouliez plus, j'avais publié en 2007 un livre intitulé « Généalogie des barbares » qui essaye de faire l'histoire de la représentation, quelques jalons de l'histoire de la représentation des barbares dans la pensée européenne, et où il y a beaucoup plus d'exemples. Il faut d'abord repartir de ce qui constitue, disons, le point de départ de l'opposition grec-barbare, ce que j'appellerais la norme considérée comme habituelle. Il y a une hiérarchie, croit-on, qui va du supérieur à l'inférieur, c'est-à-dire des Grecs aux barbares, et qui est en même temps un dispositif de domination. Dans une formule célèbre, Démosthène dit, c'est dans la troisième Olynthienne, « Il est normal qu'un barbare soit soumis aux Grecs. » Et la justification habituelle de cette dépendance, elle est bien connue elle aussi, c'est que les barbares sont mal ajustés, si j'ose dire, mal axés, ou mal ajustés, à ce qui, pour les Grecs, est central, c'est-à-dire le « logos ». Parole et raison. Là aussi, c'est un terme à double face. Dire que l'homme est un animal parlant, c'est dire aussi qu'il est un animal doué de raison, et c'est en grec la même expression, zoon, logikon. Le logos, c'est la parole-raison, et les barbares sont désaxés, du point de vue grec, usuellement, par rapport à cela. Ils parlent mal, c'est quasi leur définition de départ. Dans l'Iliade, dans le catalogue des Troyens, il est question des Cariens qui sont, dit Homère, c'est la première occurrence du terme, barbarophonoi. Barbarophonoi, c'est difficile à traduire. Si on traduit qu'ils ont un langage barbare, on ne comprend pas, puisqu'on ne sait pas ce que c'est. Et que lui-même, Homère, n'utilise pas l'opposition grec-barbare, qui est postérieure. Il faut comprendre, il y a beaucoup de commentaires là-dessus, y compris d'auteurs de l'Antiquité comme Strabon, que ce sont des gens au langage rocailleux, guttural. Le barbare, c'est celui qui parle un peu comme dans le Tarn et Garonne. C'est ça, c'est-à-dire c'est l'accent qui roule comme ça, de façon rocailleuse. Et ils parlent mal, mais deuxièmement, s'ils parlent mal, c'est qu'ils sont soupçonnés assez vite, parole et raison étant liées, de mal penser. Mal penser, non pas de façon séditieuse, mais plutôt de ne pas avoir de mesure dans la pensée. D'être des gens de la gesticulation, de l'impulsivité, de la colère, de ce que les Grecs appellent l'hubris, c'est-à-dire la démesure, et d'un côté la raison et la Grèce, de l'autre côté la démesure et les barbares, toujours dans cette image simplifiée. Il manquerait, troisième conséquence, s'il parle imparfaitement et s'il se contrôle imparfaitement aussi, par faute de mesure, le plus important, c'est qu'il politise mal. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de se donner à eux-mêmes ce que les Grecs, eux, ont forgé, à savoir un régime politique rationnel. Et le barbare, aux yeux des Grecs, se définit généralement, principalement et avant tout par le fait qu'il vit sous la dépendance d'un roi, ou d'un empereur, ou d'un pharaon. il est celui qui est sujet au lieu d'être citoyen libre. Et vous voyez, la supériorité des Grecs se trouverait ainsi triplement fondée, linguistiquement, rationnellement, politiquement. Dans trois registres qui en fait n'en forment qu'un. Alors je ne dis pas que c'est faux, ça correspond évidemment non seulement à notre image, mais même à un certain nombre de textes et à une part des réalités antiques, mais pas, et de loin, à leur totalité. Car si ce que je viens de rappeler était exact, alors il y a énormément de textes que nous ne comprendrions plus. Nous ne pourrions plus comprendre comment Hérodote, par exemple, au début de ses histoires ou de son enquête, dit qu'il va dire tout ce qui s'est fait de grand, des grandes choses, erga, aussi bien chez les Grecs que chez les barbares. On ne comprendrait plus non plus ce que Platon, je vais y venir, dit des Égyptiens, comme peuple de haute culture, de grande mémoire, d'art immuable et donc admirable. On ne comprendrait plus non plus beaucoup, finalement, de textes qui, chez Plutarque, dans la vie d'Alexandre et dans bien d'autres occurrences, parlent de manière positive et parfois admirative ou élogieuse des barbares. Il faut poser à côté de ce terme dépréciatif un usage que j'appellerais neutre du terme barbare, qui signifie simplement étranger, qui est devenu quasiment un synonyme de xénoï, et qui, lui, est tout à fait neutre. On peut imaginer du coup, et c'est le cas d'un certain nombre de textes, des affirmations qui soulignent la grandeur de telle ou telle culture, quand bien même, en tant qu'elle n'est pas grecque, elle est considérée comme barbare, devenant un synonyme, encore une fois neutre, de non-grec. Par exemple, Platon, Timée 22b, les Égyptiens, qui font dans d'autres textes de Platon, que ce soit les Lois ou dans le Critias, l'objet de nombreux éloges. Mais là, dans le Timée, il y a un vieux prêtre égyptien qui dit ceci: « Vous autres Grecs, vous êtes toujours enfants. » Et « vous êtes toujours enfants », ça veut dire, quand on regarde la suite du texte et le contexte, « vous êtes toujours en train de recommencer. » Le texte du Timée explique qu'il y a une différence quasi physique entre l'Égypte et la Grèce. L'une, la Grèce, soumise à des catastrophes, des feux, des tremblements de terre, des inondations, voit régulièrement effacer le savoir. Et il faut repartir. Les sages savants, si j'ose dire, comme des enfants, refont du savoir de façon régulière. Et puis il y a l'Égypte, sèche, sableuse, conservatrice, qui garde héritage, mémoire, tradition de tous les peuples du monde, dit même un autre texte. Du coup, il y a d'un côté des gens qui recommencent toujours, sans acquis, qui repartent en quelque sorte régulièrement de zéro, et puis ceux qui conservent, thésaurisent, transmettent et deviennent la mémoire ou la bibliothèque du monde. Cette description a aussi un lien avec la situation du philosophe dans le Timée. Et cette situation, elle est prise dans toute une série de récits emboîtés. Il faudrait étudier ça de très longuement, de très près, mais récits emboîtés, Platon est censé rapporter les propos de Socrate. Mais Socrate, lui, raconte ce qu'a dit Critias. Et Critias rapporte un récit du vieux Solon, qui lui-même est un des fondateurs des lois athéniennes, qui, au temps de sa propre jeunesse, a entendu un très vieux prêtre égyptien dire « Vous autres Grecs, vous êtes toujours enfants. » Autrement dit, le texte agence délibérément un enchâssement temporel, une sorte de, comme ça, de vertige, qui fait que le temps se creuse pour que le côté immémorial de l'Égypte insiste sur la nouveauté permanente de la Grèce. Et il y a implicitement chez Platon l'insistance sur une sorte d'antériorité. Bien sûr, il dit que ensuite les Grecs ont perfectionné, les Grecs ont porté à une plus grande intensité ce qu'ils avaient reçu. Ou bien il recommence après chaque cataclysme à réinventer la Sophia. Mais indépendamment des dispositifs divers qu'on peut discerner ou imaginer, le seul point qui m'intéresse ici, c'est le fait qu'est affirmée la possibilité que des barbares, en l'occurrence les Égyptiens, soit des gens de la Sophia, soit des savants et des sages, indistinctement, et qu'ils le sont, dans le texte de Platon, de manière plus ancienne et en un sens plus durable que les Grecs eux-mêmes. Et ce constat va connaître, au cours de l'histoire de la pensée grecque, un très riche développement, dont je ne donnerai ici que quelques indices. Les premiers philosophes, on en a des listes chez les Grecs, où figurent, avant les Grecs eux-mêmes, les mages de la Perse et de la Chaldée, les gymnosophistes de l'Inde. Certaines listes ajoutent même les druides, comme proto-philosophes, les Égyptiens, évidemment. Alors, ne me demandez pas si c'est vrai ou faux, cette histoire-là. Je ne suis pas en train de vous dire, avant les Grecs, il y avait vraiment d'autres philosophes. Je m'intéresse à la représentation des Grecs. Les Grecs nous disent, ce n'est pas nous qui avons commencé. Relisez un livre que vous avez probablement presque tous chez vous, ou que vous pouvez trouver très aisément et qui est très connu, que tous les étudiants de philosophie doivent avoir fréquenté au moins une fois dans leur vie, sinon honte à eux. C'est Diogène Laërce, « Vie et doctrine des philosophes illustres ». C'est un livre qui a traversé depuis sa rédaction au IIe siècle de notre ère environ, toute l'histoire. C'est un livre qui nous renseigne sur Épicure, sur les stoïciens, sur les cyniques. Première phrase de ce livre, encore une fois, lu normalement par, non pas tout le monde, mais des générations d'étudiants. Première phrase de ce livre, l'activité philosophique, certains disent qu'elle tient son origine des barbares. Tout le monde a dû lire ça un jour ou l'autre. Personne ne s'est vraiment attardé dessus. Alors, le certain pour les érudits, c'est par exemple Pseudo-Aristote, c'est Sotion dans ses généalogies. Mais je ne vais pas entrer dans ces détails. Ce qui est intéressant, c'est que Diogène Laërce affirme et suive une dizaine de pages où il est question et des Égyptiens, et des mages, et de la Chaldée, et des druides, et des gymnosophistes de l'Inde, cette origine non grecque, ou ce point de départ non grec de la philosophie. Vous pourriez dire, je dis pour vous, c'est pas très fair ça, mais finalement, cela marque bien une extériorité, ça ne marque pas une supériorité. Que ces philosophes anciens aient été premiers ne montre, ne prouve en rien qu'ils aient été supérieurs, ni jugés supérieurs par les Grecs. Alors, j'y viens. D'abord, on pourrait dire antériorité vaut supériorité. C'est souvent le cas dans bien des généalogies antiques où c'est le premier qui a été en quelque sorte le découvreur le plus originaire, le maître fondateur. Mais il y a toute une série de textes néoplatoniciens et des textes aussi des Pères de l'Église, dans lesquels je vais rapidement entrer maintenant, où se trouve explicitement soulignée et affirmée cette supériorité. Voilà des textes étranges. On sort là de la Grèce classique. On commence à être dans le milieu, puis la fin de l'Empire romain, ce qu'on appelait autrefois la späte antiquité, l'antiquité tardive, où se disent et se pensent toutes sortes de monstruosités au regard du classicisme, dont, à mon avis, on a tort de ne pas endurer l'embarras. C'est embarrassant. Ces gens qui, par exemple, comme Proclus, à la fois font des traités de mathématiques et des hymnes au soleil, ou bien qui pratiquent à la fois la logique et la divination, qui sont, si vous voulez, bien curieux par rapport à une belle image propre, si j'ose dire, de la rationalité philosophique. Cela marque effectivement une mutation sur laquelle on peut s'interroger, mais je veux garder mon fil des sages savants barbares. Un des meilleurs ouvrages sur cette période des Alexandrins, c'est celui du père Festugière, La révélation d'Hermès Trismégiste, c'est un livre déjà un peu ancien, mais tout à fait solide, et qui soutient et qui montre comment la philosophie des barbares a tendu à être de plus en plus exaltée à cette période, disons à partir du 1er et du 2e siècle de notre ère, au détriment de la grecque. Parce que la philosophie des barbares est plus jugée plus ancienne, plus vénérable, est plus stable. On retrouve ce thème de Platon, vous êtes toujours des enfants, vous êtes toujours en train d'inventer des nouveautés alors qu'il y a des gens constants, fixes, qui finalement disent toujours la même chose. Et c'est cette forme de, comment dirais-je, d'antériorité, de stabilité, voire d'unité, supposé, encore une fois, attribué aux barbares, qui forment leur supériorité. Comme si, on pouvait dire, les barbares ont tout dit. Ils l'ont dit tous en premier, et ils disent grosso modo la même chose. Il y a l'idée d'une unanimité. Chez un auteur néoplatonicien, Numenius d'Apamée, on trouve ceci qui aurait pu faire frémir à d'autres époques. Il parle de rituels, il parle de dogmes qui sont, tenez-vous bien, en plein accord avec les principes de Platon et tout ce que les brahmanes, les juifs, les mages et les égyptiens ont établi. Autrement dit, vous avez tout cela dans la même lignée, Platon, les mages, les égyptiens, les juifs et les brahmanes. Et plus on commence à rentrer dans ces textes, je voudrais prendre un exemple, celui d'un texte de Jean Blic, un des auteurs de cette période, c'est un néoplatonicien du IIIe siècle, qui écrit un livre intitulé « Les mystères d'Égypte ». Et vous allez voir, très curieusement, c'est écrit en grec. Jean Blic est un philosophe qui a commenté Platon et dont on a encore beaucoup de textes. Dans Les Mystères d'Égypte, il parle en tant que prêtre égyptien. C'est-à-dire, il se grime, si vous voulez, mais enfin, le narrateur est un prêtre égyptien. Et on va assister là à quelque chose qui est purement et simplement une inversion à 180 degrés du rapport fondateur entre grecs et barbares, avec une dévalorisation de la langue grecque elle-même. Ce qui est mieux, plus puissant, c'est la langue des barbares, ça n'est pas la langue des grecs. Alors que c'est bien là-dessus, n'est-ce pas, qu'était fondée la supériorité des Grecs vis-à-vis des barbares dans l'image classique. Quelques exemples au départ, c'est assez curieux, c'est-à-dire qu'il se pose comme question, il faudrait évidemment regarder de tout cela longuement et de très près, mais je vous donne le contexte schématiquement, il se pose comme question, est-ce qu'il faut traduire les noms des dieux égyptiens quand on fait une invocation ou une prière? Est-ce qu'on les hellénise ou est-ce qu'on les laisse dans leur jus, si j'ose dire, enfin dans leur langue d'origine? Et la réponse, c'est que si on les traduit, ils vont perdre de leur efficacité dans le rituel. Autrement dit, il faut qu'ils gardent leur puissance. Ça, on peut dire, c'est juste de la magie simple, si j'ose dire. Il ne faut pas modifier la sonorité si on veut le résultat. Bon. Sauf que la justification, c'est que la langue des Égyptiens est plus proche des dieux, est plus co-naturelle à la puissance divine que le grec lui-même. Les non-barbares, dit Jean Blic, dit le texte, les non-barbares s'accordent aux êtres supérieurs. Alors que, et du coup, leur nom ou leur manière de dénommer ne change pas. Alors que, on retrouve ce même thème platonicien, les Grecs, eux, aiment les nouveautés. Ils sont peu soucieux, je cite, de garder les traditions reçues, prompts à les abandonner. Ils transforment tout dans leur mobile amour pour les mots nouveaux. Les barbares, eux, je cite toujours, constants dans leurs mœurs, sont également fidèles à maintenir les anciennes manières de parler. Aussi sont-ils bien vus des dieux et leur offrent-ils les discours qui les agréent. Ici, on va entrer dans quelque chose d'encore plus étrange, qui est une dévalorisation de la langue grecque elle-même et une dévalorisation du logos comme raison même. Dans un autre texte, il faut évidemment aller chercher cela, non pas dans des raretés archéologiques, mais disons dans des rayons de bibliothèque peu fréquentés, dans un des corpus hermétiques, c'est-à-dire c'est des textes anonymes généralement, mais rédigés en Égypte aux alentours du 2e, 3e siècle, par des Grecs en grec, j'insiste, ce n'est pas des textes exotiques. Un auteur qui est Asclépios d'Égypte écrit au roi Amon, en tête d'un de ses traités, tenez-vous bien, les Grecs au roi n'ont que des discours vides, bons à produire des démonstrations. Et c'est là, en effet, toute la philosophie des Grecs, un bruit de mots. Quant à nous, nous n'usons pas de simples mots, mais de sons remplis d'efficace. Et il y a là, si vous voulez, quelque chose qui est tout à fait étrange, comme point de retournement, d'inflexion, qu'on peut à juste titre trouver peut-être monstrueux, mais, ou une sorte de naufrage ultime, mais en tout cas, trouver en grec, sous la plume de grec, cette idée que la langue de la philosophie n'est bonne et vide parce qu'elle n'est bonne qu'à produire des démonstrations, il est évident que Aristote a dû se retourner dans sa tombe ce jour-là. Chez certains pères de l'Église, pour finir ces quelques exemples, on va trouver ce même type de dispositif, peut-être moins extrême parfois, mais couplé, qui couple l'éloge d'une supériorité philosophique des barbares et l'idée que finalement il y a une stabilité de la révélation des Hébreux contre une sorte de versatilité, de mobilité des écoles grecques. Parce que, bien sûr, ceux que nous appelons les pères de l'Église, c'est-à-dire les premiers intellectuels, qui sont à la fois des intellectuels et des chrétiens, ils ont cette double appartenance, si vous voulez, d'être grecs de formation et d'être chrétien de conviction, ce qui produit toutes sortes, par moments, de court-circuit, si j'ose dire, en tout cas de tension, mais aussi, finalement, qui les conduit à célébrer ce qu'ils appellent la philosophie barbare, on trouve cette expression chez Clément d'Alexandrie, par exemple, pour dire la vérité de la révélation juive et chrétienne, ou judéo-chrétienne, si vous voulez. C'est-à-dire, ça, c'est une vérité, elle est révélée, elle est barbare en tant que non-grec, c'est pas péjoratif, au contraire, mais elle est supérieure à la rationalité que les Grecs incarnent. Par exemple, dans les Stromates, Clément d'Alexandrie dit ceci, que la philosophie peut être sauvée, éventuellement, il est moins sévère, si vous voulez, que ne peuvent l'être certains des néoplatoniciens, en tout cas, de ceux que j'ai cités, à condition, dit-il, qu'elle n'ait pas honte de se faire disciple de la connaissance barbare pour progresser vers la vérité. Alors, je crois qu'il ne me reste que peu de minutes, une dizaine de minutes. Je voudrais arriver à, comment dirais-je, extraire de ce bref parcours quelques questions qui nous fassent revenir vers notre vivre aujourd'hui, parce qu'on a fait tout un détour. On peut se demander, à partir de ces exemples, est-ce que le prix à payer pour sauver une sagesse des barbares n'est pas trop lourd ? Ils finissent par payer comme prix la rationalité elle-même, ce que nous considérons comme le savoir philosophique. Je ne suis pas sûr que le clivage aussi brutal, s'il fallait le faire passer de cette manière, soit tout à fait pertinent. On pourrait se demander, si on met ces auteurs en cause, dans quelle mesure ces auteurs sont-ils encore des Grecs ? Après tout, le fait qu'ils soient hellénophones, hellénisants, hellénisés, ne suffit peut-être pas à les considérer comme spirituellement grecs. Simplement, si on s'en tient là, on risque de vider nos bibliothèques de beaucoup de textes. Si l'on dit, comme ce serait imaginable aussi, que exalter les barbares, c'est une sorte d'exercice de misologie, de haine de la raison, d'abandon aux puissances de la magie, au mystère de la révélation, au fidéisme, là encore, on n'aura peut-être pas tort, mais on risque de terribles épurations et de vastes purges dans les rayons des bibliothèques. Et puis, cela laisserait tout à fait de côté cette question, encore une fois embarrassante, des textes classiques. Platon, Hérodote, on peut en ajouter d'autres, Cléarque de Sol, un des élèves d'Aristote, et puis des auteurs moins connus comme Hécatée d'Abdère, Bérose de Babylone, enfin je ne vais pas faire étalage d'érudition, mais pour se dire qu'il y a quand même toute une série, là, de textes disponibles, appartenant au corpus grec, appartenant également à l'histoire de la philosophie, et qui sont des textes embarrassants et donc intéressants, dans la mesure où ils ne cadrent pas bien, ils n'entrent pas bien dans ce que nous croyons les divisions habituelles. Rassurez-vous, inquiétez-vous, je n'ai pas de solution. Je n'ai pas non plus de réponse définitive à cet embarras. Ce que j'espère, c'est d'avoir au moins un peu compliqué le jeu. Je veux dire par là que, et ça n'est pas, il me semble qu'une des tâches, ce n'est pas la seule, mais une des tâches possibles de la pensée, c'est justement d'accroître certains embarras. de faire en sorte que ces clivages qui nous paraissent absolument évidents, simples, non questionnés, sages versus savants, grecs versus barbares, philosophes versus non-philosophes, ne sont peut-être pas si nets, si simples, si dépourvus de questions. Ce qui m'intéresse, pour finir, c'est finalement non pas, je pense que vous l'avez bien vu, les réalités historiques. Après tout, je ne suis pas archéologue et je ne sais pas de ces auteurs qui a tort et qui a raison, ou même quelle est la vérité ultime. Mais ce que je tente de savoir, c'est comment nos représentations traditionnelles ou habituelles ou mécaniques peuvent être réinterrogées, en quelque sorte un peu bougées, dans celles qu'elles peuvent avoir de trop mécaniques. Et c'est cela qui me paraît utile pour reconsidérer nos liens à l'Antiquité. Il faut à la fois reconsidérer ces liens et reconsidérer en même temps, c'est pour ça que j'ai choisi cette conjugaison entre sage savant et grec barbare, reconsidérer nos liens aux autres cultures. Je crois que nous avons besoin de réflexions qui portent à la fois sur les autres fois et sur les ailleurs pour vivre aujourd'hui et ici même. Je vous remercie.
C'était l'Agora des savoirs.
Bien peu nombreux sont ceux d'entre eux qui seraient capables de dire de quoi il s'agit.
Des conférences ouvertes à tous.
La science est un discours.
Le mercredi à 20h30, salle Rabelais à Montpellier et en direct sur Divergence FM 93.9.
L'interrogation de l'être humain.
La création de l'univers.
Le scepticisme, l'hédonisme, le rigorisme.
Depuis 2 millions d'années, il se raconte des histoires qui n'ont absolument ni queue ni tête.
Il y a beaucoup de choses en nous.
L'Aristide de Cyrène jusqu'au mur de mai 68.
Que nous ignorons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
Bien sûr, ces mots sont familiers au commun des mortels.
La science est un discours.
Avec quoi est-ce que nous pouvons en connaître? Sinon, avec notre propre connaissance.
L'Agora des savoirs, une initiative de la ville de Montpellier, en partenariat avec SORAMS, la Maison des sciences de l'homme de Montpellier, Direct Montpellier Plus et Divergence FM.
Vous avez pu entendre Roger Paul Droit, vivre avec les anciens aujourd'hui, sages et savants de l'Antiquité. Prochain rendez-vous de l'Agora des Savoirs, c'est le mercredi 1er décembre à 20h30, salle Rabelais ou en direct sur Divergence FM avec une conférence de Thierry Lavabre-Bertrand, l'histoire de l'école de médecine de Montpellier.